Alors Philippe, vous abordez aujourd'hui une nouvelle série qui va se décliner en 5 volets consacrés au cinéma d'animation.
Oui, tout à fait Christine. Le cinéma d'animation est par définition le genre cinématographique où l'imaginaire peut s'exprimer pleinement et librement. Le dessin animé, qui représente largement ce genre, offre aux cinéastes des possibilités d'expression infinies. Évidemment, la bande sonore de ces dessins animés peut être tout aussi inventive que les images, et c'est ce que nous verrons tout au long de cette série. Il sera aujourd'hui question du dessin animé japonais, le manga, un genre qui a déferlé sur le monde après avoir conquis le public nippon. Les dessins animés manga ont envahi la programmation télévisuelle et cinématographique, gros plan donc sur quelques-unes des musiques qui accompagnent ce genre bien particulier, Akira de Katsuhiro Otomo et Ghost in the Shell de Mamoru Soji. Le générique anglais d'Astro Boy, le premier dessin animé japonais à avoir été diffusé à la télévision américaine en 1963. Tous les dessins animés produits par le Japon sont à l'origine des mangas, des bandes dessinées ayant connu un immense succès commercial avant d'être transposées à l'écran. Il faut dire qu'au Japon, en comparaison avec l'Europe, le marché de la bande dessinée a pris des proportions spectaculaires. À titre d'exemple, en 1995, les Japonais ont dévoré près de 2 milliards de ces bandes dessinées en noir et blanc qu'ils lisent dans les transports en commun ou pendant la pause déjeuner. Même si le lectorat est en majeure partie constitué d'adolescents, il en existe pour tous les goûts, toutes les tranches d'âge, toutes les catégories socioprofessionnelles. Le sens du mot manga fut inventé en 1814 par le peintre Hokusai pour représenter des images involontaires, des images dessinées malgré soi. Cette définition en dit long sur la fonction quasi psychanalytique de la bande dessinée au Japon. Ils s'appellent Candy, Heidi, Goldorak, Albator, Dragon Ball, Cobra, les Chevaliers du Zodiaque ou encore Capitaine Flamme. Ils sont connus en France à travers les dessins animés que la télévision sert à nos jeunes concitoyens depuis les années 80. Un dessin au contour très net, une animation de 18 images secondes au lieu des 24 traditionnelles, question d'économie, ainsi qu'un manichéisme effréné, voici les caractéristiques et les critères techniques de ces dessins animés feuilletons. En 1988, une véritable bombe s'abat sur le monde du dessin animé, du manga, lorsque Katsuhiro Otomo adapte pour le cinéma son chef-d'œuvre de la bande dessinée, Akira.
31 ans après la Troisième Guerre mondiale. AD 2019, né au Tokyo.
Akira dépeint un monde post-atomique futuriste, une société qui a survécu et s'est reconstruite sur les ruines de la bombe atomique qui détruisit Tokyo en 1988. 30 ans plus tard, en 2019, Akira représente la vie de ces jeunes adolescents appartenant à des gangs, livrés à eux-mêmes, confrontés à la drogue et à la violence. Ils vont se soulever contre l'armée toute puissante pour délivrer un de leurs camarades retenus prisonniers. Pour musicaliser cet univers frénétique, Gaino Yamashiro Gumi a pris le parti de se caler sur le rythme infernal où défilent les images, la rapidité du flux visuel. Les percussions y tiennent donc une place prépondérante, tout comme l'utilisation du sampler, qui accentue ici l'extraordinaire bataille que se livrent deux gangs rivaux à bord de leur moto. Les sons d'inspiration et d'expiration que vous allez entendre représentent le gang des clowns. Ils sont employés à la manière du kesak, un chant polyphonique fondé sur un ancien rite d'exorcisme bouddhiste. Après la tempête atomique, les retombées radioactives ont contaminé la population, ce qui, bien entendu, a eu des incidences sur le développement physique des enfants en créant des mutants. Durant tout le film, Tetsuo, l'un des personnages principaux d'Akira, est en proie à une véritable métamorphose qui, pour finir, engendre un gigantesque monstre hideux. Au comble de cette transformation, son corps n'est plus qu'une masse informe d'organes, une prolifération anarchique de muscles, d'artères et de masses graisseuses. Cette transformation débute au cours d'une hallucination. Tetsuo dort lorsqu'il est réveillé et attaqué par ces peluches inoffensives qui se sont transformées en monstres titanesques après avoir amalgamé tous les objets de la chambre. La musique suit ce modèle d'accumulation à partir d'un tout petit sample d'enfants inoffensifs qui se développe ensuite telle une polyphonie pygmée.
Parang, 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 parang
de la métamorphose de Tetsuo est ensuite représenté par un cœur d'homme chantant des mantras bouddhistes en sanskrit. Une nouvelle fois, le principe d'accumulation est employé pour représenter la métamorphose. Percussions, cœurs d'homme et voix, répétant le nom des personnages d'Akira, s'additionnent, se superposent. Le nom de Tetsuo est ensuite frénétiquement répété, telle une multiplication de lui-même, décuplant la puissance de son ego, révélant ses immenses pouvoirs. Traditionnellement, on trouve dans les scénarii du théâtre No le personnage de l'ogre. Il va de soi que cet ogre possède généralement des pouvoirs paranormaux. Dans de nombreux cas même, c'est le héros qui se transforme en ogre. Pour la musique, Geno Yamashiro Gumi a pris en compte cette dimension du scénario en introduisant des éléments propres au théâtre traditionnel. C'est ainsi que l'on retrouve des instruments typiques, la flûte, le gamelan ou des percussions, aux côtés du synthétiseur et de l'échantillonneur pour donner une touche de modernité à cette forme théâtrale maintes fois séculaire. Il paraît logique que le jeune public, constitué principalement d'adolescents, se soit facilement identifié au personnage d'Akira. À cet âge où s'effectue la transition de l'enfant vers l'adulte, où le corps se transforme complètement, où il est question de devenir plus fort et de prendre sa revanche contre l'autorité, ces fantasmes de toute puissance prennent une toute autre résonance. Dans Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, ce n'est pas le spectre de la bombe atomique qui plane, mais celui de la technologie, capable de créer des êtres virtuels. Vision moderne du mythe de Frankenstein, scénario influencé par Blade Runner et 2001, l'Odyssée de l'espace, Ghost in the Shell repousse les limites du dessin animé dans l'univers de la science-fiction. Une nouvelle fois, ce sont donc des adolescents qui occupent les premiers rôles. Certains sont humains, d'autres sont, sans le savoir, des êtres virtuels, possédant un passé et une mémoire implantée par informatique. Quoi qu'il en soit, la lutte est la même pour exister et connaître le but d'une vie placé sous le signe de l'anonymat. La musique de Kenji Kawai est bien plus calme que celle d'Akira. Sans chercher à se fondre dans le rythme des images, la musique joue au contraire avec l'opposition, la vitesse des images contre la lenteur de la musique. Dans l'ultime résonance des instruments traditionnels, la musique invite à une certaine méditation par son côté statique et répétitif. Une réflexion quasi métaphysique sur le devenir de l'homme lorsque la technologie lui permet de rejoindre Dieu en lui ouvrant la porte de la vie et celle de la mort. Tu vois ce que j'entends s'achève, je vous invite à suivre le deuxième volet de cette série consacrée aux musiques et au cinéma d'animation. Il sera question de l'univers sonore de Tex Avery. Cette émission vous était proposée par Philippe Langlois, mixage Jean Priseau, réalisation Gilles Mardi-Rossian.